Bonne année 2019 et bienvenue dans l'Éclectique Show. Je suis Mathieu, Matt, alias prof du web, et je serai votre animateur, et je suis toujours votre animateur, pour ce podcast qui traite de life hacking, qui traite de tech, de mes découvertes, de mes lectures, de mes écoutes vidéo. Et cette émission est mensuelle. J'essaye de la relayer le plus possible dans les médias sociaux. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter, sur Facebook, on a un compte Facebook, et on peut échanger aussi en privé sur le site de l'éclectiqueshow.com, l'éclectiqueshow.com avec le L sans l'apostrophe. Et de toute façon, toutes les notes de l'émission vont être dans les notes de ce podcast. Alors, bienvenue en 2019. Très heureux de recommencer avec vous les émissions, les mensuels de l'Éclectique Show. Cette année, en 2019, en fait, pendant la période des fêtes, je dois vous dire que j'ai eu le temps d'écouter plusieurs téléséries, plusieurs séries, plusieurs vidéos. J'ai aussi eu le temps de faire plusieurs lectures parce que j'ai été malade, comme je n'ai jamais été malade, malade comme un chien. Et les seules choses qui étaient efficaces pour moi, en fait, c'était d'oublier le fait que j'étais malade, que j'étais pas bien. Je vous exclus ce que j'ai eu, mais deux semaines assez pénibles avec deux problématiques. Fait que bref, j'ai eu le temps de lire plusieurs trucs, j'ai eu le temps de regarder plusieurs émissions, et puis ben, c'est ce que je vais vous partager dans cette première émission de janvier 2019. On va y aller avec une petite étape de brève, des deux petites brèves que j'ai vues sur Internet. 1,270,000,000 de comptes, c'est le nombre que Facebook a bloqué dans la création l'année passée, en fait, seulement en 4 mois. Pour vous dire à quel point il y a toutes sortes de choses qui se font sur Internet. Grosso modo, on dit qu'il y a à peu près 4,5 milliards de personnes qui ont accès à Internet. On dit grosso modo qu'il y a 2,5 milliards d'utilisateurs de Facebook. Et juste en 4 mois l'année passée, 1,270,000,000 de comptes ont été bloqués pendant 4 mois sur Facebook. Ce qui est assez déprimant à se rendre compte. Évidemment, c'est pas des comptes, c'est pas des humains qui sont en arrière de ça. C'est souvent des gens qui n'ont pas de bonne conscience en arrière de ça, qui n'ont pas de choses intéressantes à faire avec ça. Et notamment, j'ai trouvé un autre lien qui va vous faire peur parce que selon les derniers chiffres d'une étude, on partagerait à l'âge de 18 ans, vos enfants auraient à peu près 70 000 données de partager sur ces mêmes comptes-là. Alors, la première nouvelle est un petit peu en lien avec la deuxième, c'est-à-dire que les GAFA détiennent, GAFA c'est Google, Amazon, Facebook et Apple, en fait, surtout les médias sociaux, là, détiennent plusieurs types de données et vous vous rendez compte que à la création d'1,270,000,000 de comptes en 4 mois par des gens malfaisants qui ont été bloqués par Facebook, les médias sociaux sont, je dirais pas vérolés, mais il faut faire très attention à ce qu'on partage. Et la deuxième nouvelle qui est dans les notes de l'émission, c'est une étude qui rencontre en état du fait qu'on a partagé beaucoup de choses de nos enfants. C'est un peu alarmant parce que, regardez la prémisse, à l'âge de 13 ans, les parents auront posté en moyenne 1,300 photos et vidéos de leurs enfants sur les médias sociaux. Et à l'âge de 18 ans, ils en auront plus de 70 000 publications. Ce qui est affolant, c'est de se rendre compte que les enfants à un certain âge commencent à publier aussi sur des choses sans avoir aucun recul. Et on se rend compte que, j'ai le chiffre ici, ça m'a juste affolé, à peu près 26 publications, quand on laisse les enfants après ça publier, vu qu'ils ont vu leurs parents le faire, en moyenne 26 publications par jour sont faites par les enfants. La première nouvelle, vous faisiez remarquer que c'est pas que des gentils qui sont sur les médias sociaux. La deuxième nouvelle vous dit que, vous commencez à peut-être donner de mauvaises habitudes à vos enfants, et même vous publiez des choses que vos enfants vous ont pas autorisées, et si on n'a pas du recul par rapport à ça, mais c'est pas les enfants qui ont à vous autoriser, on comprend que publier une photo de vos enfants, d'une photo de bébé à votre mère, à sa grand-mère, ça peut être intéressant, mais quand on regarde ça avec plus de recul, ça commence à faire peur. Alors l'article, je vais vous le laisser, c'est dans les notes de l'émission, les risques pour les enfants, les risques pour leur avenir par rapport à ça. Et puis ben la première nouvelle, faisiez-vous juste vous faites faire état que sur Facebook, sur Twitter, malgré le fait que les gens combattent, en fait, que malgré que ces compagnies-là combattent les pas fins, les pas gentils, ben il y en a quand même qui passent à travers les mailles. Et en plus du fait qu'on donne beaucoup d'informations aux GAFA, ben on donne aussi beaucoup d'informations à des gens qui sont pas censés les avoir. Je pense que 2019, ce serait une bonne année pour réfléchir à ce que vous partagez. Beaucoup trop de partage inutile à mon sens. J'ai une autre émission qui traite de Apple et avec Audrey Coulot et on en a parlé en décembre. Il y a une pollution numérique qui se fait bien souvent vous polluez la vraie vie avec des publications qui n'ont pas lieu d'être, qui sont stupides, qui sont voire débiles. Alors faites attention parce que des fois à travers vos publications débiles, ben vous pouvez toucher la vie future de vos enfants. Bref, c'était une simple petite aparté par rapport à ça. C'était une petite news en bref, mais c'était juste pour vous alerter. Je l'ai lu juste avant le début de l'émission et je me suis dit, mon Dieu, faut que je la partage dans l'Eclectic Show. Alors, on va commencer avec les outils. J'ai repéré quelques outils intéressants pendant mon temps des fêtes. Le premier outil s'appelle Speak Up. Speak Up, c'est simplement le moyen, Speak Up, S-P-E-A-K-U-P, .info, le site, c'est le moyen de partager, on parle de médias sociaux, mais là, en l'occurrence, c'est dans une conférence. Si vous avez une réunion ou vous donnez une conférence, ça peut être assez des fois utile d'avoir un retour direct, d'avoir une espèce de chat room, d'avoir une espèce de quelque chose de coordonné pour pouvoir échanger. Et ce qui est l'avantage de Speak Up, c'est que c'est anonyme. Alors, il y a des avantages pour les gens qui voudraient pas se faire reconnaître et qui voudraient poser des questions et qui auraient peur dans la vraie vie. Speak Up est là pour ça. Alors, ça permet de chatter, poser des questions au présentateur. Ça permet, si vous êtes présentateur, vous partez une classe, une pièce Speak Up. Là-dedans, les gens peuvent venir anonymes, ils peuvent poser des questions, ils peuvent réagir, vous pouvez mettre des affirmations, ils peuvent voter avec un pouce en l'air, un pouce en bas. Vous pouvez faire des sondages quand vous êtes le présentateur. Vous pouvez évidemment modérer, hein, c'est sûr qu'on veut pas de choses tristes ou dommages là-dessus. Alors Speak Up vous permet de modérer en tant que présentateur. C'est une application, alors c'est sur Apple et c'est sur Android. Ça permet pour un présentateur de dire, bon, bah regardez, vous allez pouvoir échanger en direct avec ma présentation, vous allez pouvoir échanger en direct avec moi, vous allez pouvoir voter, on va pouvoir faire des espèces de brainstorm bien encadré. Speak Up est vraiment l'application faite pour ça. Alors il y a trois types d'accès. Il y a évidemment l'application iOS, l'application Android et une application web, ce qui permet à des gens qui n'ont pas de téléphone ou de tablette ou qui voudraient pas installer l'application d'y aller en format web et d'interagir avec vous qui présentez des choses. Alors c'est vraiment pour des gens qui font des présentations, qui ont besoin d'avoir une interaction de rétroaction par rapport à ce qu'ils disent, d'avoir des votes, d'avoir de l'information complémentaire. Et j'ai trouvé ça super intéressant à vous partager, Speak Up, et c'est gratuit en passant. Le deuxième outil que je voulais vous parler, il vous arrive des fois, peut-être sur Internet, de trouver des images dans lesquelles il y a du texte, des citations, ça peut être des diagrammes, ça peut être des infographies, des choses comme ça. Et des fois, il y a des infographies qui sont en allemand, en japonais, même en anglais, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, et il n'y a pas vraiment moyen de traduire ça facilement. En tous les cas, à part du mot à mot dans Google Translate, c'est assez difficile. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé de moyen jusqu'au moment où j'ai trouvé Yandex. Yandex, Yandex, Translate, permet évidemment de traduire du texte, de traduire des sites, mais ça, on a Google Translate pour le faire. Lui permet de traduire des images. Alors, typiquement, vous allez uploader votre image, vous allez demander de traduire et lui va reconnaître où il y a du texte et va faire la traduction dans la langue que vous désirez. Alors c'est vraiment une application vraiment chouette pour des chercheurs ou des gens qui veulent avoir des compléments d'information par rapport à des graphiques, par rapport à des infographies. Et je vous la recommande parce qu'elle est vraiment drôlement chouette par rapport à l'utilisation. C'est assez simple. Ça marche bien aussi en mobilité. Alors pourquoi ne pas l'utiliser lorsque vous en aurez besoin? Troisième outil que je voulais vous partager en 2019, je l'ai fait en vrac parce qu'on a des dossiers un peu plus gros après, ça s'appelle Trezorit Sen. Lorsque vous avez à partager des documents sensibles, il y a toutes sortes d'outils qui existent, mais qui sont payants, généralement. Et des fois, vous avez des choses sensibles à envoyer et vous voulez pas que ça se voit sur un certain réseau, que la compagnie le voit à travers... je sais pas, moi, parce que vous n'avez pas d'assurance que la compagnie est bonne ou pas, ou vous vous doutez que il y a peut-être un problème par rapport à ce que vous allez avoir à échanger. Alors moi, je vous propose Treasorit, ça s'appelle T-R-E-S-O-R-I-T. C'est un moyen d'envoyer des données de manière sécuritaire. C'est une solution Swiss Privacy, compatible GDPR. En français, c'est... la RGPD. C'est encrypté point à point, c'est-à-dire la minute que vous le mettez dans votre navigateur parce que vous n'avez pas besoin d'installer l'application, ça va être chiffré jusqu'au temps que la personne le reçoive. Ça crée un lien sécure qui fait que le partage est simple. Vous avez jusqu'à 5 gigabits que vous pouvez envoyer. Et c'est en version bêta. Alors pour le moment, vous n'avez rien à payer. Je vous rappelle quand même que quand vous envoyez quelque chose par des genres de services tiers, il est toujours préférable de chiffrer en plus le fichier. Alors, comment on fait? On fait un zip et puis on met un espèce de mot de passe. Je vous recommande un encryptement AES au minimum. Et vous allez pouvoir envoyer ou transférer des choses sans que la personne de l'autre côté le reçoive et se questionne sur le fait comment ouvrir un fichier, comment ouvrir ci, comment ouvrir ça. Là, c'est assez simple, c'est du drag and drop. Vous mettez l'adresse de courriel du destinataire, vous protégez le lien avec un mot de passe que vous allez lui donner par SMS ou par messagerie chiffrée, et vous allez pouvoir... tout simplement transférer jusqu'à 5 gigabits de données de manière sécurisée sans avoir à rien installer. Alors merci à Treasorit qui est vraiment assez chouette. Vous m'en direz des nouvelles si vous le testez. Moi j'ai testé, ça va très bien. C'est un peu un genre de WeTransfer mais sécurisé. Quatrième outil dont je voulais vous partager dans des moments où on veut écouter de la radio, où on sait pas vraiment ce qu'on veut écouter, ou tout simplement lorsqu'il arrive un événement à l'échelle planétaire ou, je sais pas, moi, une Coupe du Monde, une partie de hockey mondiale, un tournoi de hockey mondial, ou, je sais pas, moi, des problèmes écologiques ou des problèmes... Si vous voulez avoir de l'information locale, je vous propose radio.garden. Radio.garden, ce que ça fait, c'est que ça vous présente une map monde et vous êtes capable, à partir de la map monde, en scrollant avec votre souris, de repérer une carte ou un pays en particulier, de zoomer, et en cliquant, vous êtes capable de repérer les radios locales du coin, ce qui fait que quand vous voulez avoir de l'information typiquement dans une région, d'un état en particulier, il se passe un événement joyeux ou malheureux, vous voulez être informé, je vous conseille fortement Radio Garden qui a indexé sur une carte toutes les radios qui diffusaient en direct. Alors c'est vraiment assez chouette de pouvoir profiter de ça. On va faire un petit moment sur... j'ai parti mon loop, je sais pas s'il est trop fort ou si vous m'entendez encore bien. Bref, est-ce qu'on l'entend? Non, on l'entend pas. Voilà. Parce que j'essaie d'enregistrer en même temps que je monte pour me sauver un peu de temps. Alors, on va faire le petit moment publicité que j'ai pas fait depuis un petit bout. Je vous rappelle que vous pouvez m'aider, vous pouvez m'encourager dans mes productions, vous pouvez m'aider à la hauteur de ce que vous pouvez, en fait. L'émission est gratuite, elle sera toujours gratuite, mais à partir de Tipeee et Patreon, si vous voulez m'encourager, c'est un encouragement, je dirais, plus psychologique qu'autre chose. Ça m'engage à moi à créer des émissions parce que j'aurais des fois tendance à dire « Ah, je vais sauter un mois, je vais sauter une semaine avant de créer une émission. » Et grâce à ça, Tipeee Patreon, ça me pousse, ça me motive à créer. Alors bref, je vous en remercie par avance. Les liens sont dans les notes de l'émission. Vous pouvez, à la hauteur de 1$ par mois, m'aider, ce qui équivaut à quelques centimes d'euros ou de francs suisses, exemple, vu que vous n'avez pas l'euro. Mais si vous avez l'ambition de m'aider autrement que ça, vous pouvez très bien le faire en mettant des notes, en partageant l'émission à d'autres, en la faisant découvrir à vos amis, à votre famille. Ça m'aide franchement beaucoup à m'améliorer, parce que dans le but de l'Eclectic Show, c'est d'apprendre des choses, de m'améliorer, de partager aussi. Alors merci par avance. On va continuer avec le reste des liens. J'essaie de je suis un peu comme l'homme orchestre dans cet épisode-là, parce que je monte en même temps que j'enregistre. Ça donne une émission un petit peu moins léchée, mais ça me sauve énormément de temps. Alors, on va être dans la catégorie des articles. J'ai repéré trois articles à vous partager cette semaine. Les trois sont quand même assez en lien avec une problématique qu'on a en ce moment. Le premier, ça vient de l'auteur de cet article, c'est David Desjardins de l'actualité, l'actualité.com. La culture du magasinage. Ça part du fait qu'à Québec, dernièrement, il y a eu l'ouverture d'un IKEA. Dans les années 90, on avait un IKEA. Il est parti, pas parce que c'était pas rentable, c'est parce que c'était le moins rentable à l'époque. Il est revenu. Québec est rendu beaucoup plus gros. L'économie de Québec est très florissante. Alors, IKEA a décidé de revenir à Québec. Et des gens ont fait la file pour l'ouverture du IKEA. Et dans les médias, beaucoup de gens ont ri de ces personnes qui ont fait la file. Et c'est à peu près le même mode opératoire que lorsqu'un nouveau iPhone qui sort, des gens font la file pour avoir ces appareils-là. Et l'article explique que ben c'est facile de rire des gens qui passent des nuits dehors à l'entrée pour rentrer dans les premiers dans le magasin, mais réfléchissons un peu plus loin par rapport à cette actualité-là, parce que dans le fond, ça oppose le fait que on est dans une société de consommation énormément. Mais on remet pas en cause le modèle. On aurait tendance à rire, à trouver ça drôle que des gens fassent la file pour avoir je sais pas, une table basse chez IKEA, ou le dernier iPhone, ou je sais pas, le dernier OnePlus, ou Xiaomi à Paris. Vous voyez un peu, hein, il est toujours arrivé, dans votre vie, il est souvent ou probablement arrivé au moins une fois que vous fassiez la file pour être le premier de quelque chose, pour acheter en premier quelque chose. Et avec du recul, c'est un peu stupide quand on pense à ça, mais maintenant, on aurait tendance à rire des gens qui le font, mais ça, on n'est pas les premiers, par contre, à remettre en question le système du consumérisme, le système qu'on a érigé de consommation qui en fait un mode de vie. Et puis là-dedans, on se rend compte que ils interrogent des gens, ils disent qu'ils veulent en profiter, ils veulent être heureux, tu sais, que dans ces fils-là, on va être le premier parce que je suis heureux, laissez-moi vivre ça, et ainsi de suite. Mais on fouille pas plus loin dans la problème sous-jacente par rapport à ça. Et selon l'endocrinologue Robert Lustig c'est un article qui avait paru dans The Hacking of the American Mind. Celle-ci repose sur la confusion entre le concept de plaisir et de bonheur, qui sont en fait opposés. Le premier provoque une sécrétion de dopamine en une récompense immédiate, mais fuyante. Le second, de la sérotonine, mais plus durable. Alors, entre le bonheur et le plaisir, on mêle ça souvent. Et vous lirez le reste de l'article, mais comme il dit, on tente de nous convaincre que d'accumuler les épisodes d'euphorie, les épisodes de plaisir, ça nous mènera au bonheur. Mais non, c'est deux choses totalement différentes. Et on va un petit peu plus loin dans mes articles. Le deuxième article, qui est en titre « Voici ce que votre smartphone fait de votre cerveau, et ce n'est pas très bon ». Et lorsque, je vais essayer d'aller cliquer, « Apply », j'arrive pas à cliquer, ok, ouvrir le lien, voilà. Parce que je prends mes notes sur ma tablette pendant que j'enregistre sur mon Mac. Alors, dans cet article qui vient de Business Insider, où on se rend compte... je vais essayer de l'ouvrir avec ces Flipboards. Petit coquin de Flipboard, parce que quand on a un lien Flipboard, il l'ouvre dans Flipboard, et puis là, on peut pas faire du scroll down, comme on dit. Alors, ouais, c'est ça. Dans l'article de « Voici ce que votre smartphone fait de votre cerveau, et ce n'est pas très bon », il y a un petit lien par rapport au fait de l'article sur les gens qui font les files d'attente, qui mélangent plaisir et bonheur. C'est à peu près le même principe pour les téléphones, vous allez voir un petit peu. dans l'article par rapport au plaisir au bonheur, on parle encore une fois de la dopamine puis de la sérotonine. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Et l'hormone du plaisir, elle est très addictive. L'hormone du plaisir, on crée une dépendance par rapport à ça. C'est très, très à court terme. Exemple, sur un téléphone, les notifications. Exemple, faire la file pour acheter, on a le produit tout de suite, mais ça nous rend pas heureux. Ça nous donne de la dopamine. On est heureux, mais c'est temporaire. C'est pas le bonheur en tant que tel. Évidemment, c'est viscéral. Ça fait activer tout le corps. C'est une drogue, évidemment. Ça inspire à la même chose que manger des chips ou aller au casino. C'est très, très, très temporaire. C'est une expérience semblable ou similaire dans le graphique à manger seul, à aller magasiner, à aller boire. Et on dit qu'on se sent bien après en avoir eu, mais on en veut encore plus. Et ça mène... Trop, et c'est étudié, c'est prouvé, trop de dopamine mène à l'addiction. Pareil qu'une drogue ou de l'alcool. Tandis que la sérotonine, en comparaison, alors là, évidemment, c'est l'antithèse de faire la file en magasin, c'est l'antithèse de regarder 250 fois son téléphone, c'est pas addictif. Ça, je l'ai pas dit dans la dopamine. La dopamine, ça mobilise à peu près 5 récepteurs de neurotransmetteurs dans le cerveau, tandis que la sérotonine, ça touche 14 différents récepteurs dans le cerveau. Et quand vous allez avoir, dans l'article, vous allez voir la carte du cerveau, vous allez voir que la sérotonine se diffuse dans le cerveau complet, tandis que la dopamine, ben elle, c'est assez limité. C'est très rapide à un certain endroit du cerveau, mais après ça, ça se finit là. Alors, si on revient à la sérotonine, le bonheur, alors ça n'est pas addictif, ça reste le long terme, ça fait plus appel au cerveau qu'au cœur, au corps en tant que tel, mais ça on s'en rend pas compte. Ça a tendance à générer le partage, ça a la tendance à générer la congratulation, ça a le fait d'être ensemble en communauté, on quand on est heureux, on va privilégier ces activités là. Et si on en manque, ça par contre, le bonheur, ben, ça peut mener à la dépression. Alors, vous voyez que la dopamine est pas tout à fait très bonne pour l'humain, tandis que la sérotonine est très bonne pour l'humain, et devrait et si on en manque, on risque la dépression. Alors, dans l'article, et c'est je fais le parallèle au fait des gens qui font des files dans les magasins, dans l'article on parle des téléphones où on a tendance à avoir des petits bonheurs, des petits coups de dopamine parce qu'on a un courriel, parce que on a une notification, parce qu'on a un like, parce qu'on a ci, parce qu'on a ça. Et je vais vous lire quelques passages de l'article. Les scientifiques ne sont pas certains que la technologie détruit notre cerveau. Hein, on a tendance à dire ou à entendre dire que la technologie détruit notre cerveau, mais non, c'est pas encore prouvé ou ça le sera pas, mais en tous les cas, ça l'est pas pour le moment. Mais ils sont assez sûrs que ça crée une dépendance. Alors, la dopamine, c'est ce qu'on dit, la technologie, on a besoin de technologie. Et ça parle dans cet article-là aussi des assistants vocaux, hein, vous allez pouvoir le lire. Elle ralentit aussi la technologie, elle a tendance à ralentir également nos processus de réflexion. Et certaines tâches sont mieux réalisées loin du téléphone, selon ces études. Alors effectivement, si on sait que le téléphone est proche, on a tendance à le regarder, on a tendance à le prendre. Dans l'article, comme souvent mes lectures, je vous en fais part, on peut perdre jusqu'à 40% de notre temps cerveau. Intéressant, si on regarde les notifications, le temps de regarder une notification, on faisait quelque chose qui demandait de la réflexion, on regarde notre téléphone, et puis ben là, ça c'est le bordel, c'est un peu plus long à se remettre dedans, et ainsi de suite. Fait que vous comprenez un peu l'idée par rapport à les problèmes que ça peut causer par rapport à aux notifications, mais il y en a un peu plus, pas juste des notifications. Je vais vous le lire. Nos applications profitent de nos besoins en termes de sécurité et d'interaction sociale. Les chercheurs commencent à voir à quel point cela est terrible pour nous. Un total de 89% des étudiants américains disent aujourd'hui ressentir une vibration fantôme de leur téléphone en imaginant qu'il provoque leur attention alors qu'il n'a pas réellement vibré. Là, on a des des ressentis physiques, hein. C'est comme les membres les membres fantômes des gens amputés. Ben, ça commence à ressembler un peu à ça, là. 86% des Américains disent qu'ils vérifient leur email et réseaux sociaux constamment. Et que c'est vraiment stressant. Alors, les 86% qui disent qu'ils vérifient constamment sont stressés. L'endocrinien, encore lui, ben là, je vous l'ai lu dans l'article précédent, il est cité aussi là-dedans. Les scientifiques savent que depuis des années que les gens refusent d'admettre. Les humains ne peuvent pas réellement accomplir plusieurs tâches. On dit que la technologie, ça nous aide à être multitâches et ainsi de suite. Mais non, on le sait scientifiquement, l'humain est pas multitâche. Il y a une certaine partie de la population qui l'est, mais pas tout le monde. Cela est vrai, et en quasi-totalité d'entre nous, environ 97,5% de la population ne l'est pas multitâche. Il y a un 2,5% des gens qui sont bizarres, qui sont une capacité de multitâche que les scientifiques appellent les super-taskers, car ils peuvent effectivement réussir plus d'une chose à la fois. Ils peuvent conduire tout en parlant au téléphone sans compromettre leur capacité de bavarder ou de changer de vitesse. Mais puisque seulement une personne sur 50 est super-tasker, les autres mortels, vous et moi probablement qui m'écoutez, sommes seulement en mesure de se concentrer sur une chose à la fois. Cela signifie qu'à chaque fois que nous faisons une pause pour répondre à une nouvelle notification, vous voyez le lien, les super-taskers et les notifications, ou recevoir une alerte d'une application ou qui vient de notre téléphone, nous sommes interrompus. Et avec cette interruption, nous en payons le prix, ce qu'on appelle le coût du changement, le switch cost, qui est maintenant bien étudié. Alors, le switch cost, parfois le passage d'une tâche à une autre ne nous coûte que quelques dixièmes de seconde, mais au cours d'une journée, jongler d'une idée à une autre, d'une conversation à une autre, d'une transaction à une autre, sur un téléphone, sur un ordinateur, sur un livre, sur un cahier, nos coûts de changement peuvent vraiment s'accumuler et nous rendre de plus en plus sujets à erreur. Aussi, le psychologue David Mayer, qui a étudié cet effet, estime que l'alternance entre les tâches peut consommer jusqu'à 40% de notre temps cérébral autrement productif. C'est-à-dire que switcher d'une chose à une autre, que ce soit une technologie ou autre chose, là, ça peut nous faire perdre jusqu'à 40% de notre temps de productivité. C'est assez incroyable. Chaque fois qu'on change de tâche, on s'envoie aussi une dose de cortisol, l'hormone du stress. Ça, c'est pas bon pour toi. Le changement met en sommet notre cortex préfrontal, réfléchit et raisonne et stimule la dopamine, et on y revient, le neuromédiateur du plaisir. Autrement dit, le stress que nous accumulons en essayant de faire beaucoup de choses à la fois alors que nous ne pouvons pas et que ça nous rend malade, nous pousse à désirer encore plus les interruptions à cause de la dopamine. Fait que vous voyez, plus on reçoit le stress qui nous rend pas bien, parce que de switcher, ça nous stresse, mais en même temps, on reçoit de la dopamine. Ce qui fait qu'en bout de ligne, ben, on aurait tendance à aimer ça, ce stress-là. C'est pas bon. Plus de temps au téléphone égale cerveau plus paresseux. OK? Notre cerveau est capable de travailler à une fréquence de 60 bits par seconde d'information. Mais on en reçoit beaucoup plus, mais on n'est pas capable de le traiter. Plus nous avons des tâches à accomplir, plus nous devons choisir comment nous voulons utiliser notre précieux pouvoir cérébral. Il est donc compréhensible que nous puissions transférer une partie de notre charge de travail supplémentaire à nos téléphones ou à nos assistants numériques. Il existe des preuves que déléguer des tâches de réflexion à nos appareils pourrait non seulement rendre nos cerveaux plus malades, mais aussi plus paresseux. C'est primordial ce que vous entendez là. Des chercheurs ont découvert que les penseurs plus intelligents et plus analytiques sont moins actifs sur leur moteur de recherche, leur téléphone et leur technologie. Cela ne signifie pas que l'utilisation de votre téléphone pour les chercheurs vous bêtifie, ça ne veut pas dire ça, c'est pas une corrélation directe, mais il se peut que ces personnes cherchent moins parce qu'elles en savent plus. Mais il y a un lien entre la pensée moins analytique et plus de balayage sur smartphone. Alors, rien n'est direct, c'est dans des nuances, c'est dans du gris pâle et du gris foncé, tout ça. Mais moins tu serais analytique, plus tu aurais tendance à balayer ton téléphone. vous comprenez un peu l'idée. Bref, il y a plein d'autres informations sur cet article-là. C'est vraiment super chouette. Est-ce que téléphoner en public devrait être un tabou? Il y a toutes sortes de questions par rapport à ça. L'article est vraiment, vraiment chouette. Je vous recommande d'aller de le lire, en fait. Parce que vraiment, vous allez apprendre des choses. Ça vous au moins aura le mérite de vous faire réfléchir sur vos usages. Dernier article que je veux vous partager. Pour 2019, je le trouvais cool à vous partager. C'est un article d'un Daniel Lafrenière, un spécialiste ici au Québec sur l'expérience utilisateur, l'expérience client. C'est plus utilisateur qu'on dit, c'est l'expérience client. Et il vous propose une résolution pour cette année 2019 de sourire. Sourire, une résolution facile à adopter. Alors, il commence son article avec certains faits. Le sourire n'est pas un geste anodin. Le sourire est perçu universellement comme une intention de coopérer, d'interagir. Il permet d'établir un lien de confiance entre deux inconnus. Le sourire transcende les différences culturelles. Le sourire est aussi interprété comme un signe d'amitié, de générosité, d'altruisme. Naturellement, on va privilégier une personne qui semble heureuse, souriante, à une autre d'humeur maussade. C'est la même chose dans le commerce, c'est la même chose un peu partout. Le sourire augmente la perception de sincérité, de sociabilité et de compétence d'une personne, et ce, indépendamment de sa beauté. Il ne suffit pas plus d'être beau ou belle, il faut sourire aussi. Le sourire provoque le plaisir chez celui qui le reçoit et celui qui le donne. Lorsqu'on sourit, on devient de meilleure humeur. Fried Strack, un de ses collègues, ont publié en 1988 une étude dans le Journal de Personnalité et de Sociologie et dans le Journal of Personality and Social Psychology. Dans le cadre d'une expérience, les chercheurs ont constaté que les participants jugeaient des dessins animés comme étant nettement plus amusants après avoir tenu un crayon dans la bouche de manière à les forcer le rictus. C'était fascinant. Bref, le sourire est aussi contagieux. Un employé souriant provoque un sentiment de bonheur chez ses clients par un effet documenté et de mimétisme qui se poursuit au-delà de l'interaction. Évidemment, l'article est plus long que ça. Je vous recommande fortement d'aller lire avec le sourire. On le sent aussi quand une personne sourit, quand elle vous parle au téléphone, ça se sent. Alors pourquoi pas prendre cette résolution-là pour 2019? On arrive dans le bout où j'ai dû beaucoup, dans le bout où j'ai beaucoup regardé de télévision pendant mon congé, pendant mes vacances du temps des fêtes, à cause de problèmes de santé, j'en ai écouté beaucoup, et j'ai écouté notamment une chaîne YouTube. Je me suis abonné à YouTube Premium pendant les vacances. Je me suis payé ça pour le temps des fêtes. J'étais un petit peu tanné de voir de la publicité. Et quand t'as un YouTube Premium et que t'as un Apple TV, les vidéos s'enchaînent, ça, même si c'est pas premium ou pas, les vidéos s'enchaînent les uns après les autres. Et tout dépend dans la thématique que vous écoutez, vous allez avoir de plus en plus de vidéos sur cette thématique-là. J'ai jusqu'à temps que l'algorithme de YouTube me présente prêt pour la route. Prêt pour la route, c'est des gens qui habitent et qui travaillent dans une caravane. C'est un couple, un jeune couple, qui est originaire de Québec. Alors, c'est l'algorithme de YouTube qui me l'a présenté. Et qui travaille et qui vit à temps plein dans leur caravane et dans leur roulotte avec leurs deux chiens. Après une année complète à parcourir l'Amérique du Nord, alors ils ont été aux États-Unis, en Alaska, en Californie, un peu partout en Amérique. Ils ont fait beaucoup de vidéos. Là, ils en sont à leur troisième saison. Ils ont commencé ça il y a quelques jours, à la fin janvier. Ils sont partis de Québec et ils s'en vont en Floride. Alors, vous voyez toutes leurs vidéos sur YouTube. Ils ont classé leurs vidéos. Évidemment, ils ont une chaîne YouTube. Ils ont classé leurs vidéos. Alors, vous passez des trucs et astuces, des bons, des achats à faire, des villes ou des choses à visiter. Je vais aller voir après pour la route. J'y vais en même temps qu'on se parle pour voir les playlists. Alors, dans les listes de lecture, vous avez la Floride, le voyage, vivre en caravane, des trucs et astuces de camping, des capsules, Canada-États-Unis, les parcs nationaux, la Californie, l'Alaska, la Gaspésie, le Texas, des rodéos, le Mexique, et son travail, parce qu'il est courtier hypothécaire. Alors, il en parle là-dedans. C'est vraiment, vraiment chouette. C'est très addictif. C'est un français québécois assez accessible. C'est pas un français difficile à écouter pour ceux qui ont de la difficulté avec l'accent français canadien, québécois. C'est vraiment, vraiment chouette. Ils ont une chaîne Facebook, mais évidemment, vous êtes plus informés avec leur YouTube. Franchement, ça me donne le goût de tout lâcher et de vivre, ou en tout cas de me trouver un travail où je pourrais être en nomadisme comme ils le sont. Hein. C'est le mouvement des nomades digitaux. Je trouve ça vraiment chouette. C'est très inspirant. Ils ont des petits trucs comme ça. Ils savent pas. C'est un peu du life hacking. C'est un peu de la productivité. Ils donnent ces trucs-là. Vous vous en rendez pas compte. Ça se fait super bien. Le premier truc qu'ils donnent toujours, et parce que ils font des FAQ, ils répondent à des questions, et il y a un truc qu'ils donnent, c'est vraiment chouette, mais c'est tout bête. Si vous avez un gros projet de ce genre-là, fixez-vous une date. Une date que vous devez vous tenir. Faut vraiment vous y tenir. Alors, c'est ce qui s'explique là-dedans. Eux autres, comment ils ont fait pour s'y tenir, c'est qu'ils ont vendu leur maison. Ils ont vendu leur maison, je pense au mois de février pour le mois de mai. Et ils savaient en février qu'au mois de mai, ils n'avaient plus de maison. Alors, il fallait qu'ils se trouvent une caravane, il fallait qu'ils se trouvent un moyen de vivre. Fait que, bref, ils se sont mis des conditions pour pouvoir avoir le choix de respecter leurs ambitions, en fait. Et c'est un peu ça l'idée dans la productivité, c'est des fois de se forcer ou de se faire forcer ou de s'obliger à tenir ses promesses. Fait que, bref, je vous recommande très chaudement Prêt pour la route, qui est vraiment, vraiment chouette. Alors, Prêt pour la route, c'est la petite blague, c'est que c'est un courtier hypothécaire. Un courtier hypothécaire, c'est une personne ici qui vérifie pour les institutions bancaires pour les personnes, quel est le meilleur taux en cours dans toutes les institutions bancaires et qui vous fournit le meilleur produit pour votre financement de maison. Alors, lui, il travaille chez une compagnie qui s'occupe des prêts, puis c'est pour ça prêt pour la route, c'est un peu le lien, le petit clin d'œil par rapport à ça. Évidemment, ils ont été très sollicités dans les médias traditionnels, mais ils restent toujours sur YouTube. C'est vraiment une niche super intéressante de ce qu'ils font. Alors, on va en écouter certaines petites capsules. Je vous ai préparé ça. Alors, on va écouter tout de suite une capsule où ils font des tests de chaises de camping.
Salut tout le monde, moi c'est Alex.
Et Valérie.
Et nous sommes de Prêt pour la route. Si vous nous découvrez par cette vidéo, on est un couple qui voyage partout, puis on met ça sur Facebook et sur YouTube. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la fin de la vidéo à notre chaîne YouTube et cliquez j'aime sur notre page Facebook. Aujourd'hui, on vous présente les meilleures chaises de camping.
Dans notre dernière aventure, on avait deux sortes de chaises, une pour le feu et une pour la plage. Ces deux chaises-là prenaient énormément de place dans notre roulotte et dans le véhicule. Donc, pour ce voyage-ci...
Alors, vous voyez un peu l'idée des trucs par rapport aux meilleures chaises de camping. Ils parlent beaucoup de minimalisme par rapport à ça. Évidemment, ils n'ont pas beaucoup d'espace, alors il faut qu'ils travaillent là-dessus. Ils peuvent, quand la minute qu'ils décident d'acheter quelque chose, il faut qu'ils sortent quelque chose de leur caravane ou de leur véhicule. Alors, ça fait travailler les fondamentaux, mais comme je vous disais tantôt, ça vous amène à certains fondamentaux, ça vous amène à une réflexion. Si vous voyez que un couple vit très bien dans une caravane pendant plusieurs années, mois, et que vous y arrivez pas avec une grande maison parce que vous avez pas assez d'espace, ben ça peut poser certaines questions. Surtout que les autres ont un certain luxe, là. Je veux dire, c'est une belle grosse caravane. Si vous aimez la caravane américaine Airstream en métal, ils en ont une. C'est vraiment magnifique. Évidemment, il y a des paysages incroyables à Alaska. On a commencé, on est en milieu de la saison d'Alaska. Les paysages sont juste fabuleux. Vous avez tout le trajet pour s'y rendre. Vous avez aussi les problématiques qu'on peut vivre en nomadisme de ce type-là. C'est vraiment chouette. On passe à une deuxième capsule que je vous ai préparée.
Salut tout le monde. Aujourd'hui, on a quitté San Francisco. On a fait les 4 heures de route qui nous séparent du parc national de Sequoia pour venir voir le plus gros arbre au monde.
Ça commence
déjà très bien. C'est très beau.
La route est extrêmement sinueuse. Ça ressemble, vu de loin, hein? C'est la Tunnel Rock. J'allais commencer mon petit blabla, mais finalement, on arrive déjà à un des points d'intérêt.
Alors, Alexandre est l'animateur de ce vidéo-là. J'ai dit Alexandre, et puis là, Alexa a démarré. Je vais l'éteindre, voilà. Alors, Alexandre est l'animateur avec sa conjointe Valérie. C'est plus elle qui fait qui s'occupe de la création des vidéos. Et lui et elle animent, mais c'est souvent elle qui est en arrière de la caméra et qui filme Alex. Je pense à Alexandre ou Alex, mais en tout cas c'est Alex. C'est assez drôle. Ceux qui aiment les animaux, qui ont des chiens, qui veulent voyager avec, ben il y a beaucoup de trucs par rapport à ça. Je vous ai préparé aussi une petite capsule qui explique, parce qu'ils ont fait des vidéos, les détails de leur budget, comment ça marche en fait.
Salut tout le monde, c'est Alex de Prêt pour la route. Lors de notre conférence au Salon du VR, on s'est fait souvent poser la même question, à savoir c'est quoi notre budget, combien ça coûte vivre à temps plein dans notre petite caravane. Donc nous, on a eu l'expérience de le faire pendant une année complète et là, on s'apprête à le refaire à nouveau à temps plein. Et là, c'est la période des impôts, donc j'ai analysé mes relevés de compte pour vous partager combien ça nous a coûté notre dernière aventure. Avant de regarder tout ça, laissez-moi...
Alors, évidemment, ils vous expliquent leur budget bien en détail. Ils sont très, très, très transparents par rapport à ça. C'est vraiment chouette. Si ça vous donne pas l'envie de faire ce type de voyage-là, vous allez au moins avoir des trucs pour ce type de voyage-là. Vous allez apprendre des trucs. Vous allez apprendre au niveau des touristiques de certains endroits. C'est vraiment chouette. Ils donnent des conférences ici au Québec. Là, ils sont partis en Floride. Présentement, ils sont en Floride. Leur dernière vidéo, c'est sur Saint-Augustine, une des plus vieilles villes en Amérique du Nord, où on voit que c'est vraiment magnifique. Il a un drone. On se rend compte aussi qu'aux États-Unis, où de plus en plus maintenant, les drones, c'est pas aussi facile que ça de les faire voler. On se rend compte aussi que des chiens, c'est pas aussi facile non plus. Bref, vraiment une chaîne YouTube chouette à consulter, qui vous fait rêver. Pour ceux qui aiment voyager, en tous les cas, vraiment, vraiment, vraiment cool. Et si vous aimez pas voyager, vous allez en apprendre quand même beaucoup par rapport à ça. Des vidéos après, à part des YouTube que je consulte, j'ai beaucoup regardé de TED cette année et pendant la période des fêtes. TED, c'est des conférences très très inspirationnelles, si ça se dit. Et il y en a une que je voulais absolument vous relayer. C'est est-ce que ça va aussi mal que ça? C'est fait par Steven Pinker, qui est une personne qui analyse les données. Alors, sa conférence est vraiment drôle. C'est pas juste des graphiques tout le long de sa conférence, une 10-15 minutes. C'est vraiment de vous montrer, de par les chiffres, que ça va de mieux en mieux sur la planète. Si on regarde, parce que là, on a tendance surtout avec les manifestations, les gilets jaunes, ou un peu partout dans le monde, il y en a d'autres, là, mais on a toujours tendance à penser que ça va de moins en moins bien, que c'est la pire année, mais on se rend compte au début de sa conférence que la pire année de l'année passée, cette année, avait été éclipsée par cette année, et puis on se rend compte, vous allez le voir aussi dans cette conférence, que finalement, c'est peut-être les médias qui nous manipulent, parce que, encore une fois, en plus de la dopamine, les petites récompenses rapides pour justifier le plaisir, on aime ça dans les médias jouer sur les émotions. Hein, parce que quand on a des émotions, quand on est offusqué, c'est des l'information qu'on a tendance à consommer sans vraiment réfléchir quand ça attire vos émotions. Et c'est ce que font les médias, c'est ce que font les médias sociaux surtout. C'est pour ça qu'on parle de fake news. Les fake news tirent sur ces cordes sensibles-là. Dans la conférence de Steven Pinker, vous allez comprendre que ça va pas si mal que ça sur la planète. Un petit bout de cette conférence-là du début. Ça, c'est le générique de début toujours qu'on entend dans les... conférence TED.
Many people face the news each morning with trepidation and dread. Every day we read of shootings, inequality, pollution, dictatorship, war, and the spread of nuclear weapons. These are some of the reasons that 2016 was called the worst year ever. Until 2017 claimed that record, and left many people longing for earlier decades when the world seemed safer.
Alors, évidemment, ce qu'il y a de bien avec les conférences TED, c'est que vous avez la transcription dans plusieurs langues sur le site. Si vous utilisez l'application, vous avez aussi les transcriptions, les sous-titres dans le français. Alors, si vous n'êtes pas habile en français, en anglais, ben vous allez très bien les comprendre. Évidemment, il y a des conférenciers allemands, il y a des conférenciers dans n'importe quelle langue. Et vous allez toujours avoir, ou souvent, ou relativement souvent, j'ai rarement vu une conférence qui avait pas les sous-titres en français, en fait. Vous allez avoir les sous-titres, vous allez même avoir les transcriptions. Alors, si vous voulez vous référer à certaines choses qui ont été dites dans cette conférence-là, en allant sur le site, vous avez un onglet transcription, vous avez tout le texte qui a été dit. Évidemment, c'est du collaboratif, alors des fois, le français, c'est beaucoup mieux que les transcriptions qu'on peut voir, les sous-titres qu'on peut voir sur les films piratés, là. Ça, je vous l'accorde, je vous en assure. Ted, c'est quand même de meilleure qualité. Et ce que disait Steven Pinker au début, c'est que beaucoup de gens font face à de nouvelles chaque matin avec des tremblements, des craintes. Chaque jour, on nous entendons parler de fusillades, d'inégalités, de pollution, de dictature, de guerre et de la propagation des armes nucléaires. Ce sont quelques-unes des raisons qui ont fait que 2016 a été appelée l'année, la pire année possible. Jusqu'à 2017, qui revendique maintenant ce record. Alors, ça m'a bien fait rire parce que quelques temps plus tard, dans les médias sociaux, je suis abonné à Bill Gates. Et Bill Gates a retweeté exactement la nouvelle pour 2018, qui est dans le fond, dans la même lignée. C'est que l'année 2018 est finalement une très bonne année quand même aussi, en 15 graphiques. On se rend compte que, ben, dans le fond, on a de plus en plus d'énergie renouvelable, ça augmente, alors ça c'est bon pour la planète. On se rend compte que les de plus en plus de zones sur la Terre sont protégées maintenant, de plus en plus, de plus en plus d'espèces sont protégées, il y a de moins en moins de pertes, les revenus, la pauvreté, ça diminue aussi, la proportion des femmes, l'éducation en fait, augmente, si on voit depuis les années 80 à maintenant, 80% on va atteindre bientôt le 90% de littératie sur la planète. La santé publique, les morts infantiles ont aussi diminué depuis les années 90 à 2016. Les morts infantiles, dramatiques, ainsi de suite, tout ça diminue. Alors, que ce soit la conférence de TED ou le lien de Bill Gates, vous allez vous rendre compte que finalement, ben, c'est pas si mal que ça, la vie en général. On a tendance à globalement s'améliorer sur la planète et on a aussi souvent tendance à l'oublier. Et quand on écoute les nouvelles, puis on dit « Ah, c'est de pire en pire, hein, les nouvelles, là, ça n'a pas de bon sens, dans quel monde vivons-nous? » Surtout quand on voit des manifestations sur manifestations, mais en bout de ligne, au global, ça va de mieux en mieux. Je voulais vous présenter aussi, ça va de mieux en mieux, ça va être un petit peu contradictoire par rapport à « ça va de mieux en mieux », une vidéo une vidéo sur Netflix. Ça s'appelle Argent sale. C'est 6 vidéos qui parlent des délires un peu dans le privé de certaines compagnies. Et on commence avec celle-ci. Ah non, ça c'est Ted, désolé. On va commencer avec celle-ci qui est assez marquante.
Je pensais avoir trouvé la voiture parfaite. Une Volkswagen Jetta wagon diesel. Je me suis fait avoir par la pub.
Volkswagen has more diesel cars on the road in the US than every other brand combined.
Boasting a 2-liter TDI turbocharged clean diesel engine, not only does it provide excellent fuel economy, but you'll love the performance too.
Elle semblait avoir toutes les qualités. Elle se conduisait comme une voiture de sport.
Can the green car of the year be fast?
Elle n'était pas trop chère, elle consommait peu, et contrairement aux anciens diesels, elle était propre.
Volkswagen Jetta TDI Clean Diesel.
TDI Clean Diesel.
TDI Clean Diesel.
J'étais fier au volant de ma voiture en traversant la banlieue ou en me rendant à New York. Ce que je ne savais pas, c'est que je conduisais une machine à tuer.
Une machine à tuer. Alors évidemment, Argent sale, c'est plusieurs scandales qui ont frappé l'actualité dans les dernières années. Le scandale de Volkswagen, le scandale des médicaments aux États-Unis, même mondialement, avec les fameuses compagnies canadiennes qui fait scandale en ce moment. Il y a toutes sortes de scandales qui sont menés évidemment par l'argent. Vous avez notre ami Donald avec ses frasques qu'il a pu faire. Et là, moi, je vous parle du scandale du diesel de Volkswagen, mais ça touche pas juste Volkswagen, hein. C'est un, à travers ça, il y a une guerre commerciale, c'est encore là dans les nuances, c'est pas dans du blanc ou noir, c'est du gris foncé, la vidéo vous en parlera pas, mais, ou va le survoler rapidement, mais ça touche aussi GM, ça touche Fiat, ça touche Chrysler, ça touche BMW, Mercedes, en tout cas, beaucoup de véhicules qui ont contourné les règlements. Vous vous rendrez compte que la réglementation américaine versus européenne diffère de une petite chose qui fait que, qui en fait une grande chose. Bref, argent sale bien fait, c'est de l'info spectacle. Faites attention en regardant ça, mais c'est assez bien fait. Vous vous rendez compte qu'à un moment donné, les dirigeants de Volkswagen ont voulu, dirigeants allemands de Volkswagen, ont voulu faire des études indépendantes pour prouver que le diesel c'était correct, et c'est incroyable. Ils ont décidé d'enfermer des cyclistes en arrière d'une bouche de silencieux, de catalyseur, en fait, de Volkswagen. En fait, ils ont voulu gazer des cyclistes, des personnes, je vais pas ça vérifier. Un scientifique dans le, c'est pour ça que je vous dis, c'est du spectacle un peu. Un scientifique dans l'émission qui dit, mais qu'est-ce qu'ils ont, les Allemands, toujours vouloir gazer les gens? C'est pour ça que c'est du spectacle, c'est de l'humour noir à certains moments. Vous l'avez entendu dans l'introduction, une voiture qui tue. À travers ça, il y a une guerre commerciale, hein, entre l'Europe et les États-Unis ou l'Amérique du Nord. Ne vous y laissez pas, ne soyez pas aveuglés par ces choses-là, mais quand même, il y a eu un scandale avec la pollution des automobiles. Et ce qui m'amène à mon dada du moment, les véhicules électriques, où on se rend compte que ça va être l'avenir, malgré le fait que elles ont une empreinte écologique à leur fabrication, de part de deux choses en fait bien bien précises, c'est que d'abord il y a pas ça a pris une centaine d'années, hein, pour les moteurs à combustion qu'on connaît maintenant d'être propres. D'avoir une chaîne de montage relative, puis là je mets des grosses guillemets, relativement propre. Les voitures électriques, ça fait à peu près à peine 10 ans, je dirais, là, vraiment électrique, là, pas hybride, électrique, grand public, qui arrivent. Alors c'est sûr, c'est encore anecdotique la quantité. Alors c'est sûr que les chaînes de distribution, les chaînes de création n'ont pas les mêmes procédés, façon de faire écologique, entre guillemets, pour être aussi propre que les voitures à combustion. Alors c'est le premier point. Et le deuxième point, ben c'est évidemment que dans certains pays, la création d'électricité se fait de manière polluante, alors par charbon, même par du pétrole. C'est sûr qu'ici au Québec, c'est beaucoup plus viable d'avoir des véhicules électriques. Il y a aussi le principe de recyclage des batteries. C'est pas encore totalement fait, mais ne vous laissez pas duper. La véhicule électrique, de tout ce qu'on peut lire, sera l'avenir en termes de pollution par rapport au moteur à combustion à essence normale. On verra s'il y aura d'autres technologies, mais pour le moment, à court terme, si vous conservez un véhicule électrique au moins 2 ans, votre empreinte sera négative par rapport à un véhicule à essence, surtout si vous êtes au Québec. Si vous êtes ailleurs où il y a de la production de pétrole par d'électricité par charbon, ça peut être un peu plus compliqué, plus d'années en fait. Mais bref, argent sale, TED, ce sont des belles conférences que j'ai pu regarder, des beaux reportages en fait. Et prêt pour la route aussi, vraiment, ça fait rêver, j'ai pas encore tout fini. Il y a beaucoup de capsules, c'est des capsules de 5-10 minutes, c'est vraiment chouette à regarder. Et ce qui m'amène à finir en fait l'émission là-dessus, sur des choses que j'ai pu regarder. J'ai pas de mots de fin pour ce premier épisode de 2019 en fait. On va rester avec la conclusion en fait que je prends habituellement. Vous pouvez me rejoindre facilement sur le site profduweb.com ou l'Eclectic Show, la section contactez-moi. Vous avez tous les médias sociaux. Je suis peut-être moins présent parce que j'essaie de consommer du contenu plus pérenne pour moi, du TED, du YouTube, des conférences, des choses comme ça, plus que des médias sociaux, mais je réponds à tout. Vous pouvez échanger avec moi sur ma page Facebook, sur Twitter, il n'y a aucun problème. Je vous rappelle vos devoirs pour 2019, mais en tout cas les miens. Apprendre, aimer et partager, c'est toujours mes 3 mots que je conserve, qui ont beaucoup, beaucoup de sens pour moi. Trouvez vos 3 mots à vous. Moi, c'est les miens. apprendre, aimer, partager. Et je vous souhaite un très bon mois de janvier. Allez, ciao, ciao!